Merci.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Et oui, nous sommes là jusqu'à 1h du matin dans l'after après la victoire du PSG. Magnifique 2-0 à Manchester United. Dans quelques secondes, Julien Laurence nous rejoint. Et d'ores et déjà, Simone Rovera est là. Simone, bonsoir.
Ciao, bonsoir.
Bon, on salut, va parler Simone. À Romain hein, tout à l'heure. Mais comme tu es dans les parages, que tu es de la maison, hein, on t'accueille dès maintenant. Ouais, tu vas pouvoir parler de Verratti, du PSG.
Ah, la porte était ouverte et je suis rentré. Donc.
Très bien, t'as bien fait. N'oubliez pas que cette semaine, on vous offre vos places pour la Ligue des Champions pour le match Lyon-Barça de mardi prochain.
C'est beau ça.
Pour remporter vos places, c'est très simple, vous restez bien à l'écoute. Dès que vous entendez le signal sonore désormais célèbre, qui ne saute pas n'est pas
lyonnais.
Lyonnais, dès que vous l'entendez, eh bien vous envoyez foot.
Non, on n'entend pas.
Mais quelque chose me dit qu'il faut rester à l'écoute. Voilà. Dès que vous l'entendez, vous envoyez foot par SMS au 732-16, évidemment. Avant de continuer notre débat tactique, avant d'écouter Thiago Silva dans quelques instants, j'aimerais qu'on accueille à minuit 7 le vainqueur de l'After Academy.
Ah oui.
Musique. Messieurs, dames, il arrive, il est là, il rentre dans le studio. Anthony, qui est notre grand gagnant. Bravo.
Bravo. Bonsoir, Anthony.
Anthony, t'as été choisi merci parmi des milliers de candidats. Ouais. Et t'es venu samedi dernier dans l'after.
Oui, vous étiez.
Bon, continue, quoi.
Allez, j'arrête.
Et nous on n'était pas là hein, ouais, tous les trois, mais t'as fait
c'est marrant de s'être qualifié le soir où les boss ouais étaient pas là.
Ah ouais. Bah ouais, ça fait bizarre. Et hein, sans coucher avec Gilbert en plus, donc.
Oui non, t'avais aucune chance de toute façon. Non, j'ai vu tes oreilles.
Ça commence Gilbert. Ah bah, on va pas parler des cheveux Gilbert. D'accord.
Ouais. Et donc tu veux rester?
Je m'arrête tout de suite.
Bon, Anthony, bienvenue. Tu vas faire l'heure avec nous, merci, du coup, hein, puisque tu fais désormais partie de la bande. Donc, encore ouais, bravo.
Merci
qu'est-ce qu'il a gagné, Anthony?
Bah, le droit d'être là.
Ouais, mais c'est une fois ou plusieurs fois?
Ah, bah, plusieurs fois, il va revenir.
Ah ouais.
Bah, après, faut faire ses preuves, hein. Tu sais, c'est comme ça, un siège éjectable. Regarde Pierre avec ses insultes, il a failli dégager, hein. Il est toujours là.
Passé à deux doigts.
Ah, il est passé à deux doigts. Bon, maintenant que tu es là, évidemment, tu participes au débat avec nous. Messieurs, dames, accueillons Julien Laurence. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut, salut, salut.
Je reprends ce message sur Direct Studio de Kenny. Envoyez-nous Jenny. Il avait dit que Manchester était sûr de battre le PSG. Il trop de confiance.
Il n'a jamais dit ça.
Si, il a dit que Manchester, l'environnement était ouais, de plus
pas,
en plus sûr.
Mais
lui,
pas lui.
Oui, il avait prévenu d'un excès de confiance de Manchester.
Très bonne analyse.
Donc, qu'est-ce qu'on dit en Angleterre ce soir, Julien?
On dit que Manchester United a été battu par une équipe meilleure qu'elle et ça arrive hein, souvent dans le foot que le PSG était bien trop fort pour ses mancuniens ce soir, que Pogba était décevant, enfin que voilà que dans l'ensemble cette équipe de United a été décevante, mais par rapport
est-ce qu'ils
à
ont
la
quand même
force...
trouvé ça surprenant de ne pas les voir ne serait-ce que se créer une vraie occasion dans l'histoire de Manchester en Coupe d'Europe, ne pas les voir se créer une occasion, c'est-à-dire mettre le feu dans les...
un peu, il y a
quand même tu t'attends sur un match en Angleterre, les mecs qui mettent un peu le feu, un peu
il y a un tir cadré,
Buffon il fait un seul arrêt, c'est pas un vrai arrêt, c'est la frappe en première mi-temps
un angle mort là. Enfin, c'est très étonnant
de Manchester. Il y a un tir cadré. En Ligue des Champions, c'est la première fois depuis 2005 où ils ont qu'un seul tir cadré dans toute une rencontre de Ligue des Champions. C'était contre le Milan d'ailleurs. Et non, c'est vrai, non. Alors, je pense que les gens en Angleterre ont été surpris du niveau de cette équipe du PSG sans Neymar et Cavani. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce que le PSG joue aussi bien sans Neymar et Cavani. Et après, je pense vraiment, comme on en a parlé hier soir, hein, qu'il y a eu un excès de confiance certain de la part de ces joueurs de Manchester. Et tu l'as senti en début de seconde période, où finalement ils rentrent à la mi-temps 0-0 ou sans vraiment avoir contrôlé le match, mais ils ont pas non plus, il y a la grosse occasion pour Mbappé, mais à part ça ils sont pas non plus trop en danger, même si c'est pas génial de la part de United, mais tu sens vraiment qu'ils reviennent sur le terrain en seconde période et là ils sont pas prêts pour ce que le PSG leur rend dedans de cette manière là et je pense qu'il y a vraiment encore plus un excès de confiance en début de seconde période quand ils disent bah voilà c'était pas si mal finalement la première mi-temps, on va continuer à faire non on est déjà mené à 1-0, 2-0 et puis après c'est terminé. Ils peuvent en prendre 3 ou 4 et donc voilà, je pense que vraiment ce soir les Anglais reconnaissent la supériorité du PSG, même sans Neymar et Cavani.
Même à la mi-temps, excuse-moi. Même à la mi-temps, parce que, enfin, il y a que moi qui ai vu que le dernier quart d'heure de la première période, Paris reprenait quand même le dessus, quand même. Ouais. Enfin, s'ils sont rentrés encore à la mi-temps, les Mancuniens, avec un excès de confiance, c'est que là, ils ont un souci dans l'auto-analyse de leur première
période. Moi, c'est pas l'impression que j'ai, parce que j'ai l'impression qu'ils sont revenus de la mi-temps, et c'est comme s'ils avaient rendu les armes en disant, on va vous laisser faire le jeu, on va accepter de subir, et ils ont vraiment renoncé. Moi, c'est l'impression que j'ai eu. Je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps.
Autre chose,
peut-être, mais c'est,
je pense que d'avoir perdu Martial et Lingard juste avant la pause, ils ont pris un coup derrière la tête un petit peu, parce que tu perds la vitesse de Martial, par exemple, qui était vraiment dans une super forme avant la rencontre.
Martial qu'on n'avait pas vu avant la blessure.
Lingard non plus d'ailleurs.
On l'avait pas vu, il avait été extrêmement discret, hein.
Oui, mais Lingard aussi, t'as raison. Mais comme Rashford d'ailleurs et comme Pogba, mais toute la rencontre. Mais je pense que psychologiquement, même s'ils ont pas été très bons en première période, de les perdre comme ça juste avant la mi-temps, d'avoir à faire deux changements dès la 45e minute, je pense que psychologiquement, tu t'es déjà un peu moins bien. Mais après, je suis persuadé qu'en deuxième période, ils reprennent le match en se disant, on va faire comme la première période, on va essayer de gérer un petit peu, on va continuer à jouer assez haut, en pensant qu'ils allaient faire la même seconde période qu'ils avaient fait en première période, tu vois, sans vraiment penser, comme tu l'as dit, Pierrot, que les 15 dernières minutes de la première période, ils avaient déjà été un peu moins bien, que Matic et Herrera pressaient moins haut, qu'ils avaient un peu plus de mal à revenir, à suivre Draxler, Mbappé et Di Maria, par exemple.
Exactement.
J'aimerais justement, sur Mbappé, qu'on parle un petit peu de sa position et de ses appels de balles. En fait, j'ai l'impression qu'il sait pas faire des appels de balles quand il est avant-centre.
Mais c'est pas
Pierre, je sais pas ce que t'en penses. À plusieurs reprises, il y a un moment notamment où Draxler part dans l'axe et en fait il le regarde Mbappé puis il sait pas
mais
quoi
c'est
faire.
Très,
en fait.
C'est très
alors
nouveau.
Que tu t'attends à ce qu'il fasse l'appel en perpendiculaire, alors, tu vois, qu'il vienne chercher.
Pour moi, il y a deux aspects. C'est très nouveau pour lui et comme pour tout joueur, même aussi talentueux qu'il soit, quand tu passes d'un poste à un autre comme ça, aussi important, en plus tactiquement, à ce niveau-là, quand tu joues avant-centre, ça va très très vite. T'as des défenseurs de haut niveau, même ce soir, c'était des défenseurs expérimentés. L'appel, il doit être parfait, et il te manque un peu de timing, il te manque des repères aussi dans une équipe en plus avec des joueurs avec lesquels il avait pas forcément le plus d'atomes crochus, en tout cas de repères dans le jeu. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose, c'est que pour moi, intrinsèquement et dans ses qualités, sont pas faites pour jouer neuf pour l'instant. Pour moi, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile quand il est sur un côté. Alors aujourd'hui, t'avais pas le choix, fallait le faire parce que ça s'imposait avec les blessés.
Mais
je suis pas étonné que
il peut également réussir à se créer des occasions.
Il peut faire l'affaire,
Même si on sent que oui, moi je le préfère clairement encore.
Mais ce qui fait presque instinctivement à droite, il sait pas le faire encore dans l'axe.
Après, il y a une caractéristique dans son jeu qu'il n'a pas encore complètement inversé. Les chiffres l'indiquent. Si tu prends les buts qu'il a marqués en Ligue des Champions, la majorité de ses buts, et même je crois dans sa carrière en général, sont marqués à l'extérieur. Je pense que c'est assez significatif qui est important chez lui, à savoir le besoin d'espace et effectivement le jeu de contre qui se marie parfaitement à ses qualités. Et effectivement, je pense que les appels dont tu parles, c'est plus les appels petits espaces. La façon de se démarquer, par exemple, ce que fait de façon excellente Cavani,
exactement,
par exemple.
Cavani, Agüero, des mecs
l'appel,
comme ça.
Alors si tu vas par là, je mets Agüero, c'est le un du top, du sommet de ce genre de choses. Cavani est excellent aussi dans tous ses appels. Et Mbappé, lui, les appels qu'il maîtrise, en revanche, c'est j'ai l'espace.
C'est l'appel pour 30 mètres.
C'est un ballon et vous allez voir ce que
d'ailleurs,
je vais faire.
D'ailleurs, si on veut être un peu plus précis, on parle plus d'appel, on parle de déplacement.
Oui, il va de l'axe vers le côté.
Quand on parle d'appel, c'est effectivement des courses beaucoup plus longues.
C'est pour tout. Il a que 20 ans quand même. Il a amélioré quoi.
Il a que 20 ans. Je peux vous dire qu'Agüero à 20 ans, il faisait pas non plus, Cavani non plus, hein, les appels qu'ils font aujourd'hui, il va apprendre. Mais c'est vrai que ce soir, il a eu un peu de mal parfois. Ouais.
Et puis Julien, on va rappeler quand même effectivement, parce que sinon on va se prendre quelques tweets que tu nous liras après, Gilbert. Mais effectivement, on n'est pas en train de dire qu'Mbappé a été mauvais ce soir et qu'il est pas bon et qu'il sait pas jouer neuf. C'est pas ça.
Bien sûr.
C'est que par rapport à ce qu'il peut donner à un autre poste, notamment sur le côté. Effectivement, il est moins performant quand il est neuf, pour moi.
Et un mec comme par exemple, ça, avec les appels, et s'il joue justement avec un neuf, les possibilités que ça lui donne, soit de se servir de l'appel du neuf pour finir lui-même, soit de déborder et de donner au neuf qui fera le bon appel, si en plus, parce qu'il peut toujours progresser, il progresse dans la qualité de passe, c'est un joueur hors norme.
Si on retourne, on le voit avec Cavani au parc, ça peut être...
Non, je crois que Cavani sera pas prêt encore pour le match retour, non, a priori non. Non, non.
Avec Choupo. Alors,
non, mais il risque de rejouer. Il risque de rejouer de la même façon.
Ouais.
Parce que ni Neymar ni Cavani ne sont annoncés pour le match retour. Donc logiquement là, c'est
Cavani. On ne sait pas. C'est dans trois semaines. Ça dépend de la.
Ça dépend de la Chine, mais pas prendre de risque.
Ça peut être juste, mais ils prendront pas de risque.
Voilà,
avec un 2-0, ils prendront pas de risque.
Tu peux aussi jouer avec exactement.
On va pas aller jusqu'à titulariser Choupo-Moting.
En mettant Verratti dans un bocal d'ici là pour qu'il puisse, jouer,
Dagba en fin de match. C'est limite de la provocation.
Bah, il,
pour Lyon Barça sur RMC.
Vous l'avez entendu?
Envoyez foot par SMS au 732-16.
Oh, c'est tombé. Vous envoyez foot par SMS au 732-16
dès maintenant. Ouais, mais là,
vous avez 20 minutes,
plus,
Vous avez 20 minutes pour gagner vos places pour Lyon Barça. Vous envoyez foot par SMS au 732-16. Ça, c'est pour remercier tous ceux qui sont encore là à minuit 16.
Mais là, t'as plus un supporter lyonnais qui nous écoute. Une victoire du PSG, ça les rend malades. Donc, ils sont plus là.
T'inquiète, les Lyonnais, c'est les amoureux
du
football.
Un soir de Ligue des Champions.
Ils nous écoutent. Mmh. Ils sont là. Alors, réécoutons, je vous l'avais promis tout à l'heure, réécoutons Mbappé. Ça va intéresser Julien aussi et Simonet. Parce que finalement, il lance aussi un message à l'Europe. Mbappé à la sortie du terrain tout à l'heure. Il était d'ailleurs, c'est étonnamment lucide, hein, parce que d'habitude, à la sortie de match, on dit des trucs, genre, ils vont se faire soulever, tout ça. Il est lucide. D'ailleurs, ils se sont pas fait soulever, d'ailleurs, au demeurant. Vous l'avez remarqué.
Ah, c'est vrai, ça.
Bah ouais.
Ton pote Laurent et son pote de Villefranche, là.
Bah oui, merde. Tout ça, c'était pour vous mettre un peu, pour vous stimuler un peu, pour vous mettre dans le match. C'était bien joué de la part de Thierry, au fond.
Voilà, il les aidait à faire ses résultats.
Voilà, exactement.
Je voudrais faire un cadeau.
Exactement, on peut remercier Thierry Laurent. On écoute Mbappé à la sortie du match tout à l'heure.
J'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur. Je pense que les gens doivent arrêter d'avoir peur. Je pense que voilà, le foot, ça se joue sur un terrain. Bien sûr, Neymar est ultra important, Cavani est fondamental. Mais voilà, le foot, ça se joue sur un terrain et on l'a montré aujourd'hui. Donc il faut que les gens nous soutiennent parce que nous, on va soutenir Lyon aussi la semaine prochaine. Il faut que le football français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe et ça passe par là et il faut arrêter d'avoir peur.
Il est fantastique ce gars, franchement. La phrase, il faut arrêter de vendre la peur. C'est extraordinaire phrase de Mbappé et il a raison et ces complexes permanents et ces problèmes d'attitude qui ont quand même poursuivi le PSG régulièrement en Coupe d'Europe parce que le contexte, j'en parlais hier soir de ce contexte, cette sinistrose, je laisse deux jours que je parlais de cette sinistrose autour du club. Mais tu dois sortir de ça, tu dois y aller, on s'en fout, machin est absent et tout, joue le match, Lyon doit faire la même. Quand je dis sans arrêt les supporters lyonnais visiblement ne me comprennent pas tous. Quand je dis, mais les Lyonnais, ils doivent jouer le titre au PSG. Ils doivent le jouer. Il n'y a pas de résignation en sport. Tu le joues le titre. Et en Ligue des Champions contre le Barça, tout le monde le sait que le Barça, normalement, c'est meilleur que toi. Joue-le le truc. Fais-le l'exploit. Et pourquoi pas?
D'accord avec Daniel, les gars?
Oui, non, j'allais juste dire que l'histoire, malheureusement, la seule fois où peut-être on n'a pas vendu la peur, on sait ce qui s'est passé, effectivement.
C'est pas que je suis traumatisé, mais
c'est parce que ça a donné raison à ces gens-là, quoi. Donc maintenant, ils continuent, je suis d'accord, Romain va pas aimer ça, à la sortie du match.
Redis-moi ce que t'as dit, c'est important ce que t'as dit. Quand je te dis, par rapport, tu veux parler du
Oui, de la fameuse remontada, bien sûr.
En quoi il fallait vendre la peur?
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis que c'est la seule fois où on n'a pas vendu la peur, justement, parce qu'on était,
on était sûr de se qualifier.
Mais c'est là qu'il y a une erreur.
Dans la presse, toi, tu parles. Je te parle des acteurs, Daniel, pas la presse.
Je te signale qu'à une semaine du match, à une semaine de la remontada, justement, la peur commençait à être vendue.
Non, mais je te parle pas. Non, c'est pour ça que j'insiste.
La peur
je te parle
a été pas, vendue
je te
dans
parle
les
pas
journaux.
De la presse. Je te parle pas de la presse, Daniel. Je te parle des acteurs, moi.
J'allais y venir. Écoute-moi. J'allais y venir. Dans la presse, d'abord, ça a commencé à être vendu. Donc, un climat s'est créé autour. Et je me souviens très bien de cette vidéo à l'époque où on voit quatre joueurs du PSG. Les mecs font les calculs de est-ce que c'est possible ou pas, de combien tu peux prendre et tout.
Ils disent, t'imagines la honte si on perd 5-0.
Alors, tu sais quoi? Je m'en rappelle aussi très bien, Daniel.
Et dès qu'ils sont rentrés sur la pelouse, la peur, mais c'est même pas que tu la voyais sur la tronche. C'est qu'elle était là.
Sur la pelouse, peut-être. Ce repas, je m'en rappelle très bien. Rappelle-toi comment ils le disent, ce qu'ils disent, ce dont tu parles là. Ils le font presque en rigolant et avec un gros excès de confiance, pour moi. C'est pas la même chose. Pour moi, ils ont pas peur à ce moment-là.
Quand tu vends quelque chose, t'es pas obligé de l'acheter. Mais l'important, c'est que tu l'as vendu et que t'en as parlé et que t'étais dedans.
Quand tu vends quelque chose, tu dois l'acheter.
Mais n'empêche que t'en parles, t'es là, elle est là, elle est en rayon. Elle est en rayon, la
meilleure. Il y a 40 ans de fiasco des clubs français en Coupe d'Europe derrière.
Mais bien sûr, donc, mais j'en parle tout le temps.
Donc,
disons
que
les gens parlent tout le temps.
Excuse-moi, tu es un réflexe de se dire.
Mais j'en parle tout le temps.
Quand est-ce que ça va foirer?
Mais j'en parle tout le temps de ces 40 ans. Mais moi, je ne veux qu'une chose, c'est qu'on combatte ces 40 ans. Qu'on ait une autre attitude. Le nombre de fois, on voit les matchs de Coupe d'Europe où les clubs français n'y vont pas, ou s'en foutent, ou mettent pas le pied comme il faut, ou le mettent trop, ou pas assez. Et c'est mon combat depuis 10 ans.
La frontière est très maigre entre vendre la peur et juste rester humble et.
Simone Rovera, c'est l'homme qui inspire la peur en Italie. Simone.
Ça c'est vrai. Mais Daniel, tu parles de 40 ans, ça c'est la première fois, pour ceux que je vois le football, depuis le temps que je serve le football, où tu es en France. Déjà qui est champion du monde avec une équipe qui est vraiment, vraiment, depuis longtemps, une des favoris pour la Ligue des Champions. T'as jamais, même quand tu avais les Grands Lions, c'était jamais entre les favoris. Aujourd'hui, tu as une équipe favori, où il y a des champions du monde qui ont déjà fait un gros exploit cette année. Et donc, la peur, ils la connaissent pas. Mbappé connaît pas la peur, donc il fait bien à les dire. Elle doit être l'exemple.
C'est vrai ce que tu dis.
Beaucoup plus.
Mbappé, il a
Neymar.
Pas connu. C'est lui,
Neymar,
il a connu que du bonheur dans sa
Neymar,
vie.
Neymar beaucoup plus peur que Mbappé dans certaines choses.
Ouais, c'est vrai.
Et Mbappé, c'est aujourd'hui doit être les symboles, les joueurs à suivre sur le terrain, dehors du terrain. Il y a aussi des champions comme Gigi Buffon. Mais ce que dit Mbappé, c'est parce qu'il connaît pas ces mots. Tout ce
on en revient à la différence du ressenti entre, en tout cas, du message des joueurs. Et de l'opinion.
Julien, toi qui connais bien
dans notre monde actuel, des joueurs sont hermétiques à ce qui se passe au dehors.
Julien,
non, pas tous, malheureusement. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est impossible.
Et pas totalement.
Julien, toi qui connais bien l'arrogance anglaise, qu'est-ce que t'en penses de la déclaration de Mbappé?
Non, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous venez de dire. Ce que les Anglais ont relevé ce soir, et ce qui est marrant, parce que je me fais souvent chambrer ici en disant que la Ligue 1 c'est une ligue de fermiers, etc.
De fermiers,
la Farmer League.
Ah, oui, ça c'est la Farmer League. C'est la fameuse phrase que les Anglais sortent tout le temps dès que tu parles du PSG.
Les gens
ils viennent acheter le mot. Ils viennent acheter pas mal de poulets dans la ligue.
Tu vois, c'est ça.
Ils viennent bien piocher aussi, Julien.
C'est bon le poulet.
Sauf que cette saison,
tu viens sur la terre pour prendre les fruits.
Voilà.
Et après,
les fruits, les poulets, ce que tu veux, mais.
Ben oui, c'est ça.
Ouais, ils sont déjà bien mûrs quand ils les prennent,
quand même. C'est la métaphore des orangers.
Ouais, mais ils sont déjà mûrs les fruits quand ils les prennent. C'est pas eux qui continuent de les former.
Non, juste pour finir, sauf que la Ligue des fermiers, la championnat des fermiers, là, cette saison contre la première ligue qui est censée être le meilleur championnat du monde, en tout cas c'est comme ça que les Anglais le voient, c'est 3 victoires, un match nul et une défaite hein, pour Lyon et le PSG contre Liverpool, City et Manchester United. Je pense que dans 3 semaines, ça fera une 4e victoire ou en tout cas pas une autre défaite pour le PSG non plus contre United. Et voilà, et je pense que le PSG aussi ce soir montre le visage de la Ligue 1 et représente la Ligue 1 et ça je pense que c'est vraiment très très important pour le football français.
Bah si, non mais non mais c'est pas ça, c'est que l'Angleterre a beaucoup d'argent et avec cet argent ils font la différence depuis des années. Basta, ça se situe là surtout, ça se situe là. Ouais. C'est pas autre chose.
Alors j'aimerais qu'on écoute une réaction de Thiago Silva. Il est venu tout à l'heure au micro de Mohamed Bouafsi. On l'a pas encore. Bon, on va le retrouver dans quelques instants. Bon bah du coup on a Lamine. Alors on va accueillir Lamine au 32-16 qui est avec nous. Salut Lamine.
Salut l'after.
Il y a longtemps que j'étais pas venu.
Salut Lamine.
Lamine, t'as peur toi? Ou t'as plus peur?
Enfin, j'ai jamais eu peur. Je pense que Mbappé a raison. Il faudrait que les médias arrêtent de distiller la peur. Enfin, dans
mais pourquoi les médias? Il y a pas besoin des médias pour entendre les supporters entre eux discuter et dire attends.
Vous en avez un exemple qui est juste à côté de toi, Gilbert. Daniel, que j'adore beaucoup, nous a dit que le PSG n'avait aucune référence cette saison. Je pense qu'après la phase de poule qu'on a vue, il y avait quand même quelques références.
J'ai parlé sans arrêt du PSG Liverpool, mais qu'il fallait oublier ça pour justement faire un gros match ce soir.
Bah, si tu me parles tout seul, t'auras toujours raison. Laisse-moi finir.
Des fois, il se contredit. Tout seul. Vas-y, Lamine.
L'année dernière, le PSG a fait partir un coach pour lequel Daniel nous a dit le PSG perd un très grand coach. Ce coach-là a perdu... 2 ans avant, on s'est plaint du fait qu'on a rencontré Barcelone et qu'on a pris 6-1, alors qu'on aurait pu finir premier de la poule et qu'on a fait un match nul à domicile, un partout, contre Ludo Goretz. Donc, cette année, on a un coach qui maîtrise son effectif, qui maîtrise la tactique de son équipe, qui ne distille aucune peur à son effectif, qui leur permet de s'exprimer à 100% dans des postes qui ne maîtrisent pas au départ et pourtant on est satisfait à la fin des matchs. Et il faut valoriser ça et arrêter de distiller la peur comme ça a été le cas la semaine dernière.
En fait, tu voulais rendre hommage à Tourelle ce soir.
Bah évidemment, on a un
c'est exactement ce qu'on a fait, Lamine. Je comprends pas trop le discours, mais bon. Ok.
Mais donc Lamine, toi, avant le match, t'étais confiant et tu voyais Paris écraser Manchester à ce point?
Bah, ils les ont pas écrasés, mais dire que le PSG n'a aucune référence sur ce qu'on a vu cette saison, je pense que c'est faux.
Non, non, mais avant le match, toi, tu te disais Paris va gagner facilement 2-0. Bah,
non, mais enfin, j'ai pas à me dire ça. Moi, je suis supporter. Enfin, mon avis, il compte très peu. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'on n'avait pas peur et que les joueurs, avec le coach qu'on a, feraient face à Manchester, même avec Pogba, et quel que soit ce qui est arrivé sur les 7 derniers matchs de Première Ligue, avec les équipes qu'ils ont affrontées, les références étaient moindres que ce que le PSG a montré cette saison.
Lamine, merci beaucoup.
Lamine a raison sur l'apport de Tourelle à cette équipe,
mais non, mais, bien sûr.
Et même à ce club.
Lamine, il a raconté n'importe quoi.
Non, si pas totalement.
Parce que les matchs de poule, hors cette année, et on avait dit que c'était un peu particulier quand même cette année parce qu'ils étaient plus durs que d'habitude, mais les matchs de poule n'ont malheureusement jamais été pour le PSG une référence, parce qu'en poule, ils en ont fait des bons matchs. À Bernabeu, contre le Barça, contre le Bayern au Parc, il y en a eu des bons matchs en poule. Ça n'a pas empêché par la suite de voir des attitudes défaillantes et des matchs perdus alors qu'il y avait matière à faire mieux. Donc cette année c'était un peu différent parce que il nous avait semblé quand même qu'entre la nuit de Anfield et le jour du Parc des Princes dans le retour contre Liverpool, quelque chose semblait s'être passé et que Tuchel effectivement à l'inverse d'Emery distillait quelque chose de positif et de la confiance. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été dit dans l'after de A à Z. Donc Lamine a eu absolument tout faux dans son analyse de ce qu'on a dit, nous en tout cas dans l'after ici.
Dans quelques instants, Thiago Silva.
Des fois les gens écoutent une phrase, c'est compliqué à notre époque d'écouter deux trois phrases dans un raisonnement.
Minuit 27, on est là jusqu'à 1h du matin. Je vous signale que Simonet va tout vous dire de Roma Porto.
Il nous avait tout dit hier déjà.
Julien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très vite.
Ciao Julien.
Tu reviens pour la Coupe d'Europe évidemment toute cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après puisque les huitièmes de finale sont étalés sur un mois.
Il y a Tottenham demain.
Ah ouais, non mais attends, ça rigole pas.
Tottenham Dortmund, ça va être beau aussi.
Dans quelques instants le Thiago Silva, la tactique. Il faudra qu'on dise un mot de l'arbitrage aussi. Tiens, est-ce que il y aurait dû y avoir un rouge sur Young ou pas? Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans quelques instants. C'est l'after qui revient après la victoire 2-0 du PSG à Manchester. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Simone Rovera et donc Anthony qui est parmi nous, qui fait désormais partie de la bande vainqueur de
comme ton pote
de la même Star Academy.
Lequel? Ton pote de Strasbourg.
Mais c'est pour ça qu'on l'a pris.
Ah d'accord.
Il va tous vous soulever.
Gonçalves.
Oh là là. Non, ça c'est pas Gonçalves, c'est un ton de famille.
Non, c'est Quintela, donc c'est un peu latin aussi, quoi.
Ah ouais.
Oh, ça fait footballeur Quintela, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu colombien.
Puis ça veut dire
fait
là aussi. Aussi.
Oui, carrément.
Pardon.
Si il est là aussi.
Putain, on l'a jamais fait ça.
Ah oui, oui, on est d'accord, oui.
Thiago Silva, comme promis, on l'écoute. Il parle du plan de jeu de Tourelle, écoutez.
Le point fort de cette équipe de Manchester United, c'était l'attaque avec Martial, un peu Pogba, Lingard, Rashford, les contre-attaques. Vous avez travaillé ça hier à l'entraînement à huis clos. Maintenant que vous avez gagné, vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé et quel était le système ou la tactique proposée par votre entraîneur?
Non, ça je peux pas parler.
Si Thiago, en tant que capitaine, c'est vous qui avez réalisé un grand match avec Kimpembe ce soir.
Non, je peux pas parler sur ça, mais on a très bien travaillé sur le contre-attaque. Je crois qu'on a bien maîtrisé le match, surtout la deuxième étape. Et la deuxième étape, on a été plus solide défensivement. On n'a pas souffert. Un grand contre-attaque ils ont été pas très dangereux. On a été très bien placé défensivement. On n'était pas passif, on était agressif, c'est ça la chose qu'il faut faire dans ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous sommes tous contents. On a gagné 2-0, on n'a pas pris de but. Parce que dernièrement, dans le championnat, pardon, on a commencé à prendre beaucoup de buts. Et aujourd'hui, pour un défenseur central, c'est magnifique de finir un match de très très haut niveau sans prendre de but. Mais ça, je dois féliciter aussi Drazle et Kylian, que c'est ces deux attaquants d'aujourd'hui qui ont bien travaillé défensivement aussi. Et après, notre qualité, bien sûr, qui a fait la différence.
Bon, alors là, il ne veut pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'on travaille des circuits un peu préférentiels, Pierre.
Oh non, mais je trouve qu'ils ont surtout travaillé sur le fait de subir la pression.
Oui,
en fait, ils ont travaillé genre avec les mecs de derrière et Marquinhos, Verratti qui prenaient des vagues de mecs qui arrivaient et tout, genre ils bossaient à deux contre trois ou à deux contre quatre pour
mais tu le
être
fais,
habitué à
tu le fais très souvent, tu le fais très souvent ça. Honnêtement, tactiquement, il y a rien de, il y a pas des principes exceptionnels. Ouais. Après le match de Liverpool où Tourelle invente presque ce rôle à Marquinhos de joueur un peu hybride milieu défenseur, là tu peux te dire tactiquement il y a une vraie innovation, il y a quelque chose. Là aujourd'hui, Daniel a raison. Ce qu'ils ont travaillé le plus, c'est presque plus du mental.
C'est de l'attitude.
On est prêt à subir au début du match, pas face à un Manchester qui va pouvoir être capable pendant une demi-heure de presser, etc.
C'est complètement mental parce qu'ils peuvent pas bosser en Ligue 1.
Ils l'ont très bien fait.
Et l'attitude, le caractère, quand on dit depuis des années que c'est ce qui manque surtout au PSG, Tuchel est vraiment accrédité de ces progrès-là. Et la décontraction qu'il apporte, on la voit par exemple dans, je suis en train de lire une ligne de son interview. Ouais, on voit qu'il est décontracté.
Daniel, t'as souvent dit ces temps-ci, t'as souvent dit que Tourelle t'énervait parce qu'il changeait d'attitude justement, qu'il s'énervait.
C'est vrai que les deux dernières temps, il dégageait du stress.
Il m'avait pas plu. Les deux dernières déclats. Mais il n'empêche, tu sais, quand il s'est plaint par le rapport à Antero, si c'est pas le moment de chouiner de ça, prépare l'équipe et tout. Il se trouve que visiblement derrière ce discours-là, il y avait un travail qui était.
Je pense que c'est aussi une façon de s'affirmer et de dire les choses.
En tout cas, pour ce qui est de la décontraction, regarde. On lui dit, qu'avez-vous pensé de la prestation de Di Maria, dont c'était le retour à Manchester? Et il fait, c'était dur pour lui parce qu'il a joué près de moi et comme notre première mi-temps n'était pas terrible, je lui ai beaucoup parlé. Ça, c'est, je trouve qu'il y a pas mal de contractions à dire ça.
Et même avant le match,
directement. Hein. En gros, je l'ai pourri. Voilà.
Il a des réponses assez naturelles.
En plus, il a été sifflé, mais il est resté confiant. Il a travaillé dur. Il répond et de
superbe photo de Di Maria avec la bouteille de bière d'ailleurs, vous avez vu là quand il ramasse la bouteille, il fait semblant de boire.
Mais ça montrait aussi quelque part.
Ah oui, la bouteille qu'on lui a balancé
des contrats quoi pour faire ça. Ouais, très bien.
Manchester de finir à 10 parce que
Ils ont fini à
9. Quand Yo balance le coup d'épaule à Di Maria, il sait qu'il va finir dans la barrière l'autre. Il y a un trou sur le côté du terrain.
Bien sûr. Alors tu sais quoi, au départ, en direct, à vitesse réelle, j'ai cru que il lui mettait un coup vraiment quand ils étaient déjà à l'extérieur du terrain. Donc j'ai trouvé ça très malhonnête.
Non, c'est la config du stade qui rend le truc dangereux.
Exactement. Après le ralenti, effectivement, on voit qu'ils sont encore sur le terrain, qu'ils essayent de jouer tous les deux le ballon. Alors effectivement, lui, il arrive avec un peu plus de vis, un peu plus costaud, mais c'est le genre de duel à l'épaule que t'as très souvent dans un match. Oui, ça aurait été dur finalement de lui mettre un rouge là-dessus.
Ouais. C'est vrai.
Enfin, c'est vrai que quand tu vois ce terrain, ce grillage qui a 2,50 mètres.
Oui, mais c'est dans le mouvement. S'il en met moins et que Di Maria passe, on va lui reprocher. Il peut pas se dire il y a une barrière à 3 mètres, je vais le laisser passer. Ouais.
Non, c'est bien
obligé d'y aller.
C'est bien comme ça.
S'il était à l'Olympico, il faisait toute la piste d'athlétisme, elle avait les temps de...
Oui,
sur un autre terrain, on n'aurait rien dit.
Ah, c'est vrai qu'en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de
Di Maria, il est léger, hein.
Petite stat d'ailleurs, tiens, qu'on m'envoie là, c'est Ben qui m'envoie ça. Le PSG a fait 7 fautes dans le match, 4 cartons.
Et pas Verratti.
Ça paraît bizarre, cette
fois. Ah là, je me suis trompé. Non, c'est possible.
Pas de cartons. Si, ils ont pris les cartons.
4 cartons.
Oui. Ouais. Ils ont payé cher les fautes. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu énormément de fautes, mine de rien, dans ce match.
Manchester en fait 17.
Non, mais attendez,
beaucoup plus.
Il n'y a pas eu une intensité de dingue dans ce match, hein.
Non, Manchester pouvait plus la mettre après.
Il n'y a pas eu une intensité de dingue, hein.
Non, ça s'est joué plus sur de la concentration, sur la maîtrise, etc., que sur de l'intensité.
Le PSG a, une fois ce but marqué tôt dans la seconde période, ils ont gagné en confiance. C'est comme s'ils s'étaient dit, c'est bon, on peut faire quelque chose ce soir de mieux que ce qu'on a fait en première période où on avait l'impression, vous ne bousculez pas plus que ça, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus dur, bon mais finalement on est pas mal, et quand le but arrive c'est, ok les gars, jouons parce que là franchement il y a un truc là, on est bien, on est très bien, comme s'ils avaient mis un petit peu de temps à prendre conscience qu'ils étaient supérieurs et qu'ils pouvaient faire mieux qu'un bon résultat.
C'est Manchester qui leur a donné cette confiance. J'ai l'impression en début de deuxième mi-temps, vraiment, le bloc était super bas. Ouais. C'était prenez le ballon et on va voir ce que vous allez faire.
On l'avait dit, mais moi j'ai juste une différence avec toi, Daniel. Et c'est ce dernier quart d'heure de première période où j'ai déjà cette sensation-là, moi.
Le but, ça les libère vraiment, ça leur transmet une confiance où tu te dis, bon là, vraiment, après, attends, c'est un crescendo dans la maîtrise. C'est impressionnant. Ouais,
Peter Manchester
après le but,
qui
la maîtrise totale. Hein. Ah oui. Elle est vraiment.
Allez, tiens, on a Guillaume qui est là au 32-16, qui est supporter de Manchester. Salut Guillaume.
Salut Gilbert, salut les gars.
Bonsoir Guillaume.
Est-ce que tu es étonné par le scénario, toi qui es supporter de Man U?
Ouais, bah tu charriais tout à l'heure Pierre qui était trop bas. Là, je crois que moi, je suis trop bas. Hein. c'est vrai qu'on nous... Bah non, mais depuis l'arrivée de Solskjaer, on vivait un petit peu un rêve. On gagnait tout ce qu'on faisait, se toucher en or. On gagnait tout. On jouait plutôt bien. Et bah du coup, on a commencé à y croire. Et on a commencé à se dire que peut-être qu'on pourrait le faire. Et en fait, on s'est fait prendre tactiquement par une super analyse du match de Tourelle. Qui a très bien ciblé la clé du match, qui était le milieu de terrain et Pogba. Il nous a mis Marquinhos dans les pattes et Marquinhos a tué le match, quoi. Parce que sans un Pogba rayonnant, Manchester n'existe pas et Marquinhos l'a complètement ficelé et on n'a pas existé. Et puis derrière, les faits du match sont pas pour nous. On perd Martial, on perd Lingard à la mi-temps. Il y avait rien qui souriait ce soir, quoi.
D'ailleurs, quand Mata rentre, on se dit oula, Mata, attention, c'est quand même un sacré joueur.
Mata, non, moi, c'est un joueur qui m'a toujours plu.
Au final,
parce qu'il est
Casper, bon, on sait qu'il Casper joue plus en deuxième mi-temps.
On sait que, et là, c'est même pas fantôme.
Si non, ah ouais, quand Mata rentre, on se dit c'est mort. Hein. C'est pas du tout le type de joueur qu'il nous faut parce qu'on n'a pas un jeu de possession et Mata, c'est pas.
Et Alexis Sanchez, autre joueur que j'ai beaucoup aimé.
Bah, tu sais quoi, quand il est rentré, moi.
Ça peut-être Lukaku, là.
Bah, ouais, moi, ça m'étonnait qu'il est rentré si tard. C'est-à-dire, t'avais rien à faire. La seule chose que tu pouvais faire, est mettre les ballons sur un côté, les dégager dans les centres.
C'est vrai. Même à la première sortie de Martial. Moi, j'ai dit, décale Rashford, mais Lukaku, parce que le mec a posé des ballons dessus, bon. Mais
sauf si tu penses de pouvoir prendre le contrôle du match.
Moi, je vais te dire, t'as raison, et je pense que Solskjaer, il a pensé, je pense pas qu'il envisageait que le PSG soit si fort. Et il pensait qu'à un moment il aurait plus de contrôle que ça.
Mais c'est qu'il est vraiment pas lucide. Parce que honnêtement, on a vu un peu.
Il vient d'arriver.
On a vu pas mal de fois cette config là de match pour Manchester cette saison, même en première ligue et depuis que Solskjaer est là.
Comme dit Jenny, c'est la Farmer League. Donc ils pensaient que c'était des fermiers qui venaient.
Après un match plus compliqué face à Tottenham.
City, ils ont fait pareil contre Lyon. Ils pensaient jouer des fermiers aussi.
Mais j'insiste une nouvelle fois, mais le match de Leicester, regarde-le, c'est exactement la même chose. En deuxième mi-temps, le Manchester n'arrive plus physiquement, n'existe plus.
Tous les autres, si ça arrive, gagner en Première Ligue, ce sera ces dernières un mois et quelques. Mm-hmm. Les niveaux des Manchester, c'est ça. Et ça manquait quelque chose en plus. Je veux pas faire la nostalgie de Mourinho, mais Lévy, c'est quelque chose. Face à la Juve, les matchs qu'ils ont gagnés, on sait pas comment. Ils ont rien fait, même chose que ce soir. Sauf que dans la dernière minute, c'est passé quelque chose, les ballons dans la surface, et la malchance de la Juve l'a fait perdre, mais les néants étaient les mêmes.
Ce que Solskjaer apportera à Manchester cette année avant une reconstruction, parce qu'il va falloir passer par là, avec lui ou un autre mec, c'est d'aller jouer la quatrième place. Ouais. Je pense que ce qu'il va y avoir de plus important maintenant pour ce club, au-delà du match retour, je pense pas qu'ils viendront avec l'idée de pouvoir inverser la tendance. C'est ça aussi, ce sera un aspect très positif pour le PSG par rapport au miracle auquel il faut croire ou pas croire. C'est que je pense que vraiment la quatrième place va devenir un objectif majeur parce que eux qui étaient complètement largués, ils sont vraiment revenus dans le coup. Ils voient Arsenal qui progresse pas des masses et Chelsea qui est en train de couler. Ouais. Donc, pour eux, la quatrième place est jouable. Et forcément, ça va devenir l'objectif numéro 1.
Et Arsenal risque de faire un bon parcours en Ligue Europa parce que quand même, ce sont des clubs favoris, ils ont des matchs pas si compliqués.
Possible qu'eux essayent de la récupérer par ce biais, la place.
Imagine, si même Manchester perd face à Chelsea en FA Cup, après, il a un boulevard ouvert pour jouer que la quatrième place.
Guillaume, tu veux rajouter quelque chose?
Non, hormis le fait que en plus, c'est comme quand tu viens de larguer ton ex hein, et puis que tu la recroises deux semaines après dans la rue et elle est avec un mec beaucoup plus beau que toi. Et ben, Di Maria, c'est exactement ça. Le mec, il a rien fait à Manchester et il revient nous faire la misère chez nous, quoi. Il a lâché
quelques fuck off au moment des buts du Paris Saint-Germain.
Ouais, le public l'a un peu cherché.
Merci Guillaume.
Ouais, merci les gars, bonne soirée.
Salut, bonne soirée. Ouais. Dans quelques instants, on est de retour pour cette fois
évoquer. C'est arrivé de croiser son ex avec un mec bien plus beau.
Non.
Non, mais non, non,
ton Simonet, c'est impossible.
Non, non.
Le mec plus beau, c'est impossible.
Ouais, merci. Allez, il est pris.
Ah oui, il vient d'arriver, il a plein de couleurs, Anthony.
Non,
je... Ah, bon, Simonet. Non, non, mais moi, j'ai pensé à quand tu vends de Zaniolo à 4 millions et demi, tu penses que tu as filé un n'importe quoi à la Roma et tu le vas mettre en doublé, voilà, en Ligue des Champions. Et
oui, parce que c'est ton club, l'Inter, qui l'a fait ça.
Ben, c'est les directeurs sportifs de l'Inter qui, je pense, ne va pas.
Mais c'était déjà Pepe Marotta à ce moment-là.
Non.
Non, lui, il n'aura pas fait ce boulet de pareil.
Bon, justement, tu nous parles de ce match Roma-Porto dans quelques instants, bien sûr. On vous attend au 32-16 pour en débattre. Il nous reste encore 20 minutes d'after en élève qu'une heure du matin. Je rappelle donc que le PSG gagne 2-0 à Manchester. Jamais un club n'avait gagné 2-0 ou par de lui d'écart en Coupe d'Europe à Manchester. Et les statistiques disent que dans 100% des cas, le club qui a fait ça à l'aller s'est qualifié.
C'est fait.
Donc, globalement, on peut être confiant comme pour le retour dans 15 jours.
C'est attention déjà, quand même.
Sauf Pierre, parce que lui, Pierre, il flippe. Hein. Mais c'est comme
c'est ça.
Mais
non,
mais tu l'as.
RMC Football Show, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Simone Rovera, Anthony Quintela, qui ne joue pas donc au National de Medellín, mais qui est bien le gagnant de l'After Academy, et qui nous a fait remarquer à juste titre pendant la pub que depuis 23h et le début de l'After, nous n'avons jamais cité une seule fois le nom de...
Adrien Rabiot. On l'a complètement oublié avec la perf de Marquinhos. Il est passé aux oubliettes, donc je pense que son cas est réglé maintenant.
Oui, je pense qu'il l'était.
Définitivement, il l'était. Oui, là, s'il y avait encore des doutes...
Oh, tu crois qu'on
aurait mis ça sur le tapis? Ça fait partie des choses pareilles qui s'est changé, remué autour du club pendant des semaines et des semaines dans différents débats et dans des médias qui pensent avoir des infos. Mais dans le club...
Ça a changé.
Ça n'a pas été d'actualité qu'il revienne, alors qu'on nous a dit qu'il allait le revenir, il allait revenir. Moi, j'ai entendu des gens soi-disant sérieux dire il sera à Manchester.
Oui, oui. Ah ouais. Et que Tourelle avait réclamé.
Il était peut-être à Manchester.
Au resto. Dans les tribunes avec une écharpe de Manchester.
Au resto. Non, mais ceci dit, c'est encore un des aspects, je pense, où le club a appris de ses leçons passées et a changé là-dessus.
Évidemment, qu'il ne fallait pas céder. Et là, je pense qu'ils en sortent renforcés. Le PSG n'a pas besoin de Rabiot à partir du moment. Ils pourront en avoir besoin dans l'effectif sans problème pour aller à Saint-Etienne dimanche pour faire souffler d'autres joueurs.
Ouais, c'est même pas ça.
Ça, c'est autre chose.
Le PSG a peut-être besoin de Rabiot dans son effectif. Exactement. Mais le PSG a décidé de ne pas le prendre et il ira jusqu'au
bout. Ils se tiennent à ça et maintenant il faut qu'ils aillent au bout comme ça. C'est comme ça.
Anthony?
Bah, donc, Véronique va avoir un peu de boulot, du coup. Va falloir qu'elle discute avec
pas mal. Elle en a. Va falloir surtout qu'elle lui trouve un club et ça sera pas simple parce que, je pense que tout le monde est assez conscient et ne doute pas que les clubs se parlent entre eux, que les recruteurs, les directeurs sportifs, les gens, c'est un milieu fermé, le foot, et je pense que
tout
le monde sait.
Il est un petit peu catalogué, tu penses?
Ah, je pense que tout le monde sait qu'elle est bien, bien relou quand même. Bien, bien relou.
Mais c'est des bons problèmes, ça, quand même.
Quand t'as un joueur comme Rabiot, c'est des bons problèmes. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un jour, ils prennent un autre manager?
Ils vont trouver un club.
Non, je crois pas. Non. Non, mais après
parce
tout,
que c'est parce qu'il est encore jeune, mine
c'est un choix de vie, hein, tout. Et puis le pauvre en plus a connu un drame pendant les vacances de Noël et tout. Genre, il faut pas. Voilà, c'est sa vie, elle est comme elle est. Nous, faut faire la distinction entre le joueur, tout ça, et sa vie. Ouais, il a eu beaucoup de malheur, Rabiot, mine de rien, quand même. Il a pas une vie facile.
Non, mais quand on parle de ses choix, c'est sur la gestion de sa carrière, c'est pas le reste.
Ah oui, bien sûr.
Écoutez, un dernier petit bout de Tourelle, il parle du coup d'épaule d'Ashley Young à Di Maria. Il a un avis assez net, l'entraîneur du PSG.
De Ashley Young sur Di Maria. Bah, à mon avis, il a eu de la chance parce que c'était franchement pas nécessaire. Je sais que, il joue ici depuis très longtemps et il sait aussi que c'est tout en descente quand on sort du terrain. Et puis, il y a la barrière. Donc, c'était vraiment pas nécessaire de le pousser dans son dos. C'était pas nécessaire du tout. Il a pas, peut-être pas fait exprès, mais ça n'empêche, c'était pas nécessaire. Je suis fort heureux qu'il se soit pas blessé.
Je suis fort heureux.
Il a dit qu'il avait fait exprès, quoi, en gros.
Puisqu'on me reproche parfois de m'intéresser à la vie privée des joueurs en pensant que ça n'a pas d'influence sur ce qui peut se passer ensuite sur le terrain. J'ai parlé de Rabiot, parlons de l'autre. La vie de Verratti va aller beaucoup mieux maintenant. Il y a eu des changements importants aussi récemment dans sa vie qui vont faire que probablement on le verra moins dehors.
Et tu penses qu'on le verra plus sur le terrain, du coup, plus régulièrement?
C'est fort possible qu'il y ait une relation de cause à effet aussi.
Il a déménagé aussi.
Daniel, on sait plus que nous.
Non, tout raconter parce que les gens aiment pas qu'on raconte.
Il va lâcher un peu de jus dans la route, quand même.
Quand tu te stabilises et quand il y a des choses importantes qui se passent, un joueur de foot a aussi besoin de ça. Et sa vie, vous allez le voir, ça ira mieux.
En gros, il a une copine qui le visse à la maison, quoi.
Un peu plus.
Pour schématiser.
Il a changé de vie.
Deux copines,
il a voilà.
changé de vie.
Il a changé de vie. Maintenant, il sort beaucoup moins. Il est un peu plus, voilà, il est un peu plus vissé. T'as raison.
Simonet.
J'aime bien l'expression.
Roma Porto. Alors, il s'est passé plein de trucs, hein. On a failli voir Conceição qui est le coach de la Roma qui se met des baffes.
Ouais. C'est pas passé loin. C'était sympa. C'était un derby.
C'est rare. Quand même, Conceição qui s'est né. Ouais. C'est bizarre.
Ouais. Et demain pour la Roma avec le...
un ancien joueur de la Roma, entraîneur de la Roma face à la Roma.
Ouais.
C'est très sympa.
De quoi j'ai pas compris ça?
Lui, joueur emblématique de la Lazio qui a gagné des trophées avec
ouais,
la Roma.
Oui, bien sûr, qu'on se sent à Lazio.
Ouais, ouais.
Mais... Ah, mais je crois que t'avais dit de la Roma. J'ai mis la page
non,
de la Roma.
Lui,
de...
face à un ancien.
Ah oui, ok. Non. Oui, d'accord.
Tu sais qu'il y avait des supporters de Porto qui avaient les drapeaux et les maillots de la Lazio. Il y avait les maillots de Dicanio dans les virages de Porto.
Ah ouais,
il y avait
ah
les supporters de Porto avec le maillot des Dicanio. C'est-à-dire, ils sont venus à vraiment un climat derby. Et comme ouais. derby, ils
oui,
sont
passés. Dicanio, c'est même un peu plus que les derbies.
Ils sont plein de choses.
Dicanio, c'est Lazio, hein, 100%.
Oui, oui, non, ça je sais, mais.
C'est garanti, c'est Lazio 2000.
Ouais, ouais.
Et c'était un match pour la première mi-temps vraiment horrible. On avait vraiment l'impression que les deux équipes voulaient que rien s'est passé. Il avait la peur de perdre, la Roma n'attaquait pas si souvent. Le Porto faisait une très bonne gestion du ballon, mais pour rien faire. C'est-à-dire, l'objectif c'était de dire, on a les ballons, vous l'avez pas, et donc on prend pas des risques. Après, tout s'est passé, ça accélérait en deuxième mi-temps. On a vu monter en puissance aussi Nicolò Zaniolo, qui ça fait un moment que j'ai dit que c'est un très bon joueur, et ce soir, il a eu sa consécration européenne. C'est deux buts, c'est pas encore Ballon d'Or, n'importe quoi, mais
donc ce gamin joueur... était à l'Inter, l'Inter l'a laissé partir pour une somme modique.
Alors ces joueurs a été acheté
et c'est
2017.
L'espoir du foot italien et il met deux buts ce soir.
2017
et il est vraiment fort, vraiment je le vois il est fort.
3 millions. Déjà il a un profil
une bouchée de pain.
Ouais. Alors, il était acheté pour 3 millions et vendu à 4 millions et demi. Plus un 15% à la revente que, bon, c'est quelque chose qui te rentrera un jour, mais c'est plus ce que tu perds que de ce que tu vas gagner aujourd'hui. L'Inter était sous fair play financier, devait vendre, faire des 40 millions de plus-value avec les joueurs de son effectif pour ne pas être sanctionné. Donc, soit tu vends Icardi, que tu as acheté à 10 millions et tu le revends à beaucoup, soit ils ont vendu 7-8 joueurs de son équipe Primavera, les jeunes, qui étaient champions d'Italie. Entre ces 7-8 joueurs, il y a eu Zaniolo, qui était proposé à la Roma dans une liste des joueurs pour faire baisser les prix de N'Golan dans cette opération qui a mené
N'Golan. Ils ont récupéré N'Golan, qui est pilier de barre à Milan maintenant, ouais. Et ils ont laissé passer le gamin.
Ça fait mal de faire préfinancier quand même. Hein.
Tu sais l'expression clubs, Daniel italien, cornuto mazziato.
Oui.
C'est-à-hein. C'est-à-dire, cocu est frappé. Ouais. On peut dire.
Donc, non, mais là, non seulement t'es cocu, mais en plus tu te fais frapper.
Voilà.
Non, mais là, l'air de rien, tu viens d'expliquer qu'un club qui à un moment donné forme toute une génération de très très bons joueurs arrive à un moment donné obligé de vendre son capital formation.
Bon, ils n'étaient pas obligés de prendre N'Golan.
Non, mais,
ouais, mais c'est quand
tu
même.
Pouvais, tu pouvais vendre Icardi acheté à 15 millions et le revendre.
Ouais, mais sauf que t'en as aussi besoin d'Icardi, c'est
tu
ça.
Tu pouvais
problème.
Vendre Skriniar acheté à 20 millions et le revendre à 40. T'avais des impositions de l'UEFA. L'Inter a choisi, bien ou mal, de vendre tous ces jeunes. Les problèmes, c'est que tu as des dirigeants payés pour voir l'avenir de certaines, pour voir quelle est la perspective.
Oui, pour savoir qu'il allait être fort, le gamin, quand même.
Et Zaniolo, aujourd'hui, c'est un joueur. Paratici, le directeur sportif de la Juve, était au stade ce
lui,
soir.
Il ne se trompe on pas, il a l'œil, bien. Lui. Hein.
Et on sait très bien.
Ils veulent l'acheter?
C'est très bien que la Juve le veut.
Ils ont plein de joueurs.
50 millions sur les gamins.
Ah ouais.
La Juve est déjà prêt à mettre 50 millions, mais qui prend Zaniolo aujourd'hui prend les plus forts joueurs italiens. Mais au-delà de Zaniolo, la Rome a fait une match parfait en deuxième mi-temps. Il y a ses buts gag qu'ils encaissent sur un raté d'un tir raté d'un attaquant qui devient une passe,
ouais.
et avec une erreur de position de Manolas qui malheureusement parfois fait des très bonnes choses, parfois des amnésies qui coûtent cher. La Roma gérait quand même plutôt bien ces matchs. Moi je trouve que c'était vraiment le match qu'il fallait faire. De Rossi je l'ai trouvé plutôt bon, même s'il n'est pas allé beaucoup à l'impact, il a été plutôt des gestions. C'est un 4-3-3 qui devenait un peu un 4-1 en phase défensive. Dzeko a fait un travail tout terrain, il était partout, il a fait vraiment un match très généreux. Malheureusement, la Roma n'est pas arrivée à faire le match parfait, c'était 2-0. Mais ça reste la réussite de Di Francesco, qui comme on disait avant, Daniel.
Bah, la réussite de 1, c'est un score pourri. Hein.
Ah bah, quand même, tu gagnes le match quand même.
Ouais, tu gagnes le match.
Mais enfin, le but fait mal.
Le but fait très mal.
Il peut faire mal.
Mais Hier soir, quand je disais, moi je vois la Roma avancer, on s'est douté même que la Roma.
Moi je pense qu'ils vont passer. Moi.
Surtout par rapport à leur phase de poule, où ils étaient
ils vont passer, ils vont être à l'aise.
C'était une phase de poule. Ouais.
Tu vois ça comment, toi?
Rien d'autre. Tu vois ça. Tout le respect des CSKA et
ils perdent trois matchs, je crois.
Il y a un parcours de croissance de cette Roma qui passe surtout par certaines blessés. Qui ne sont pas là, qui ne seront pas là et qui ouvrent des portes. On n'oublie pas Pastore, aujourd'hui Tazaniolo, mais on rappelle que la Roma
avait été bâti
pour arriver.
Ouais, Pastore est blessé, quelle surprise.
Non, aujourd'hui il était sur les bancs, mais il a été longtemps blessé. La Roma a été bâti pour jouer en 4-3-3 avec De Rossi, Pastore milieu gauche et Cristante ou Pellegrini à droite. Cette option est disparu, c'est-à-dire on a même pensé De Rossi est sur la fin, il y a Nzonzi qui va devenir titulaire. Oui, Nzonzi a joué beaucoup de matchs.
Nzonzi est sur le banc.
Chaque fois qu'il joue, il est titulaire presque. Sauf que maintenant, il est revenu de Rossi. Donc, on se retrouve une Roma un peu plus bâtie sur mesure de Di Francesco, c'est-à-dire avec des joueurs comme Zaniolo, qui est en 99, Cristante, qui a 24 ans, Pellegrini a 23 ans, t'as devant, t'as Chic, qui a 23 ans.
Il est sur la patte Chic.
Musculaire.
Gilbert,
t'as
Hunder,
97. T'as encore Kluivert, 99. C'est une équipe avec des joueurs experts d'un certain âge et des jeunes. Je trouve que Di Francesco est parfait pour gérer ça. Donc, il a fallu du temps. Là, en train, petit à petit, de se mettre en place. Et à Roma, tu gagnes un match en Ligue des Champions. Si tu arrives à gérer l'euphorie, je pense que ça peut être une bonne forme de démarrage de la deuxième partie de la saison. Di Francesco, je trouve...
Tu les vois bien en quart de finale contre le PSG?
Je les trouve bien en quart de finale. J'espère pas face au PSG, mais peut-être en
cela dit, le score de ce soir te laisse dans tes prédictions d'hier soir, parce que hier soir, tu t'es un peu enflammé. Hier soir, tu nous disais, la Roma va refaire le coup de l'an dernier.
J'avais fait les pronostics avant le match, j'avais dit 3-1. Donc, je me suis trompé. Mais ça reste une victoire qui donne beaucoup d'espoir pour la façon dont laquelle la Roma a joué. Et au match retour, si la Roma, pourtant, va récupérer des joueurs blessés, la Roma aussi. Mais je trouve que si la Roma propose le même match qu'au match aller, il a des très grandes possibilités de se qualifier.
Je le pense aussi.
Rien à rajouter sur ce match, ça fait le tour.
Je veux parler un peu plus, alors, si on a le temps, au-delà de Zaniolo, de Dzeko.
Parce qu'il a fait une passe. Sur Dzeko.
Mais la façon où, sur certains matchs, surtout en Ligue des Champions, il s'est transformé, je pense qu'à 33 ans,
Il choisit quand même.
C'est un peu dur de dire choisir.
Non, mais il est bon. À chaque fois, il est bon.
Qu'il y a une Ligue des Champions, peut-être parce qu'il a un attaquant avec un profil un peu différent. Je trouve qu'à niveau technique, de là de Cristiano, c'est le meilleur avant-centre de la Serie A. C'est quelqu'un qui est capable de jouer avec les deux pieds dans la proposition des
espaces. C'est un bon joueur, Dzeko. Il a souvent été sous-estimé, mais c'est un super attaquant. Ben,
aujourd'hui, en Ligue des Champions, c'est un de ces joueurs qui va franchir un cap à son équipe. Il n'y en a pas beaucoup. Icardi n'est pas encore capable de faire ça à l'Inter. Même si j'ai dit c'est l'attaquant de l'avenir, etc. Lui, sans être un méchant qui gueule sur le terrain, c'est, on peut dire, la force tranquille. C'est l'homme vraiment qui te lui donne le ballon, tu sais qu'il va pas les perdre et te faire quelque chose de bon. La passe qu'il fait pour les premières buts de Zaniolo, s'il va au duel avec Pepe, qui est pas les dernières des défenseurs, il le gagne, il sert son coéquipier. Moi, je trouve que Dzeko, c'est vraiment
un pilier.
Un joueur qui ferait tout bien à n'importe quelle équipe des hauts niveaux de Ligue des Champions. Mmh. Peut-être pas comme titulaire, mais un attaquant comme ça, c'est bien pour...
Deux, trois infos pour conclure, messieurs. Alors, quand même, le décès de Gordon Banks aujourd'hui, légende anglaise.
Eh oui.
Oui, le fameux gardien de but qui avait arrêté, rappelez-vous cette phrase de Pelé. Il a arrêté mon but. Non, c'était pas ça la phrase exacte.
Il a marqué un but et Banks l'a arrêté.
Merci, merci Anthony. Voilà, c'était à la Coupe du Monde 66.
Ouais, même Zidane l'a dit sur Buffon, je pense, en 2006. Quelque chose comme ça.
Une fois que t'as fini ta rubrique, tu peux y aller.
Voilà. Gordon Banks qui avait 81 ans. Par ailleurs, dans les infos du jour, je voulais également vous signaler, il y avait un match d'Europa League aujourd'hui, décalé. Fenerbahçe Zenit. Fenerbahçe qui est très très mal en championnat de Turquie.
Je viens de le dire, je l'avais pas vu venir.
Ils ont gagné 1-0 face au Zenit. Valbuena était titulaire et c'est Slimani qui a marqué le but de la victoire de Fenerbahçe. Et puis des infos sur le transfert, les sous que Cardiff Cardiff doit à Nantes dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala. Cardiff fait savoir aujourd'hui qu'il payera, mais qu'il y a des anomalies dans le contrat. Donc le président de Cardiff dit, contractuellement, si nous sommes obligés de payer, on le fera, il n'y a pas de problème, nous sommes un club honorable, mais il y a des anomalies dans ce contrat. Donc vraisemblablement, on est peut-être parti pour un feuilleton judiciaire dans cette histoire.
L'arrêt de Banque sur Pelé, c'est Coupe du Monde 70.
Et puis, je voulais quand même remercier les autres concurrents de l'After Academy, les 7 finalistes qui sont tous passés là pendant 7 jours. Il y a eu Vincent, Maxime, Bachir, Rosine, Félix et Francis. Donc,
Félix, voilà. Félix, moi.
Félix, non, Félix était vendredi. Toi, t'es pas là le vendredi. Anthony, lui, était là samedi.
Ça aurait été bien que tu sois là ce soir-là et que tu fasses venir ton chat le jour où Félix est venu.
Ça, c'est vraiment bidon. Alors. Et franchement, quelle blague pourrie.
Adesso vengo a casa.
On va pas partir là-dessus.
Lui, il parle à son chat. Il écoute l'After, ton chat?
Mais bien sûr. Oh
là, une petite dernière réaction, celle d'Ole Gunnar Solskjær. Écoutez, il répond à cette question. Est-ce que la défaite de Manchester est tactique? Je sais pas qui l'a posé, peut-être Mohamed. Enfin, réponse de Solskjær.
Bien sûr, ça a toujours.
Ah bah non. Ah,
pas. Bien sûr. Il a dit bien sûr.
Ça a bloqué. Donc il a dit bien sûr, on a la réponse.
Ça a toujours une importance, moi je pense. Mais ouais. Ça ne s'est pas joué que là.
Langage de
football. Et l'heure, l'affaire finie. De toute manière, je vous répondrai demain.
Ajax, Real, Dortmund.
Tottenham.
Tottenham, Dortmund.
Tottenham, Dortmund.
Et pour tous ceux
match
qui...
Quel faut regarder en priorité? En partage, hein, Pierre?
Moi, Tottenham, si ça ne te dérange pas.
Sur Tottenham.
Ah bah moi, tu voulais que Tottenham premier? Bon, moi, je fais l'Ajax. Ok, je fais l'Ajax.
Moi, je préfère regarder Ajax Real aussi.
Bien sûr. Avec le commentaire de Fred.
Bon, je fais Tottenham.
S'il y a Vinicius et Fred Hermel qui commentent, on va se régaler.
Tottenham Dortmund,
messieurs. Et n'oubliez pas Saint-Etienne Strasbourg aussi, demain.
Ah oui,
c'est vrai.
C'est le vrai match de la semaine. Je voulais pas trop la ramener. Merci, Anthony. Tu m'as rendu service. Et pour tous ceux qui nous demandent où est passé Eric Brunet, il arrive là. C'est lui qui est là à la rediff de Brunet à partir de minuit. On lui relaisse la place et demain l'after sera là aux alentours de 23h et jusqu'à minuit. Merci à tous et à très vite, à demain soir.
RMC Football Show, l'after foot.